Voici une question dont la réponse nous aidera à mieux connaître le Seigneur. Est-ce que les plans de Dieu s'accomplissent toujours? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse bien claire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je pense que les femmes vont être particulièrement intéressées par certaines de nos questions aujourd'hui. Et j'ai bien hâte d'entendre ce que la Bible va nous enseigner en réponse à ces questions. Les voici. Est-ce que Dieu accomplit toujours ses plans? Est-il souverain dans toutes les situations? Est-ce qu'un chef d'État alcoolique devrait gouverner? Est-ce que la reine Vasti a eu raison de désobéir à son mari quand il lui a envoyé l'ordre de venir à son festin pour montrer sa beauté aux invités? Est-ce qu'il y avait des femmes qui menaient leur mari par le bout du nez dans le temps d'Esther? Qu'est-ce qui peut arriver si nous prenons une décision sous l'effet de la colère? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous enseigner ce qu'elle dit pour notre instruction. Mais premièrement, prions. Seigneur, on désire entrer dans ta présence. On sait que tu es là et on veut goûter que tu es là. C'est tellement bon d'entendre ta voix. On veut que tu touches nos cœurs aujourd'hui. On veut goûter à ta parole. On veut sentir que tu es bon, Seigneur. Même si on le sait, on a besoin de goûter à ta bonté. On veut y goûter à travers ta parole, mon Dieu. Ta bonne parole qui sait nous fortifier, nous encourager. On compte sur toi. Parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons débuté l'étude du livre d'Esther. Dieu n'est pas mentionné dans ce livre. Il en est de même de la prière. Ce livre traite d'une page de l'histoire des Israélites qui ont préféré demeurer dans le pays où ils furent emmenés en captivité plutôt que de revenir en Palestine et y reconstruire le temple et la ville de Jérusalem. Un complot sera formé afin d'exterminer le peuple de Dieu, mais dans sa providence, Dieu sauvera son peuple, même s'il lui cache sa face. En effet, tout son peuple aurait dû revenir en Palestine. Chers amis, débutons notre lecture. Esther, chapitre 1er, verset 4. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 180 jours. Imaginez, 180 jours passés à festoyer, un buffet en opération pendant 6 mois. Le père de Louis XV, roi de France, parlait de ce festin au ministre des Finances, et il dit qu'il se demandait comment le roi de Perse fit pour avoir la patience d'avoir un tel banquet. Le ministre des Finances répondit qu'il ne comprenait pas comment il a financé l'événement. Ce banquet révéla la richesse, le luxe et le caractère royal de cette cour orientale. Il y invita tous les princes et tous les chefs militaires de son royaume afin de gagner leur appui pour une campagne militaire afin de conquérir la Grèce et de devenir leur roi suprême sur tout le monde connu de l'époque. Il y a presque réussi. Je pense qu'il aurait réussi si Dieu n'avait pas déjà prédit l'échec de la campagne et que la suprématie passerait de l'est à l'ouest. Oui, chers amis, Dieu accomplit toujours ses plans. Xerxès voulait que ses princes et ses chefs voient qu'ils pouvaient se payer la guerre qu'ils comptaient déclarer. Il a étalé toute la richesse de son royaume au moyen de ce grand festin. Tout se déroula dans une attitude païenne du début à la fin. Dieu n'était pas de la fête. Certains cherchent des leçons spirituelles dans ce banquet, et franchement, je n'en vois aucune. Ce que je vois, c'est Dieu qui nous introduit dans une cour païenne où sont prises des décisions qui touchent le monde entier. Il semble que l'on ait laissé Dieu hors du portrait. Mais Dieu veut que nous sachions qu'il est souverain dans toutes les circonstances et qu'il va accomplir ses plans. C'est Dieu qui prend les décisions finales et non l'homme. Verset 5. Lorsque ces jours furent écoulés, le roi fit pour tout le peuple qui se trouvait à Suse, la capitale, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, un festin qui dura 6 jours dans la cour du jardin de la maison royale. Xerxès termina son grand banquet par une dernière semaine de bombance exceptionnelle. Il invita une grande foule dans la cour de son palais. Verset 6. Des tentures blanches, vertes et bleues étaient attachées par des cordons de byssus et de pourpre à des anneaux d'argent et à des colonnes de marbre. Des lits d'or et d'argent reposaient sur un pavé de porphyre, de marbre, de nacre et de pierre noire. Un décor somptueux, d'or, d'argent et de bijoux, révèle toute la richesse du royaume de Xerxès. Il y a quelques décennies, ce royaume a célébré son 2500e anniversaire. Les reportages télévisés, les journaux nous ont donné un aperçu de la richesse du Shah d'Iran. Le banquet a coûté plusieurs millions de dollars. L'événement fut critiqué parce qu'il y avait beaucoup de pauvreté parmi le peuple. Mais le banquet de Xerxès était cher au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Les historiens pensent que Xerxès a donné ce somptueux banquet pour obtenir l'appui nécessaire à ses campagnes militaires. Il voulait que tous sachent qu'il pouvait se payer une guerre. C'est à cela qu'a servi le festin. Cette méthode est encore employée de nos jours, mais à une plus petite échelle. Il y a quelques décennies, un manufacturier d'automobiles a sorti un nouveau modèle innovateur. Tous les concessionnaires de la compagnie furent convoqués à Détroit pour une convention avant le lancement du modèle. Il y eut des soirées, des banquets, afin d'encourager les concessionnaires à vendre ce nouveau modèle, après leur avoir montré toutes les qualités de ce nouveau produit. C'est ce qu'a fait Xerxès, mais c'est l'approbation de ses ambitions militaires qu'il recherchait. La nature humaine n'a pas changé. Dans l'empire des Mèdes et des Perses, Xerxès se préparait à la guerre et il voulait que l'élite politique et militaire du pays accepte ses projets. Verset 7. On servait à boire dans des vases d'or, de différentes espèces. Il y avait abondance de vin royal, grâce à la libéralité du roi. Ce banquet est devenu une véritable orgie. Verset 8. Mais on ne forçait personne à boire, car le roi avait ordonné à tous les gens de sa maison de se conformer à la volonté de chacun. Nous ne devrions jamais obliger personne à boire de l'alcool. Même si le roi buvait, il ne força personne à le faire. Aujourd'hui, nous sommes plus civilisés et une personne doit boire ou se retirer. Des gens d'affaires affirment qu'aujourd'hui, il est impossible de traiter des affaires et aller à une rencontre d'affaires sans participer à un cocktail. Un cadre d'entreprise fut convoqué par son supérieur hiérarchique et il fut réprimandé pour n'avoir pas bu lors d'un cocktail organisé par la compagnie. Nous aurions pensé que le président d'une entreprise aimerait avoir des cadres supérieurs sobres à son service. Mais nous sommes civilisés et nous obligeons les gens à boire. Verset 9. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Les hommes étaient venus avec leurs épouses, mais celles-ci n'ont pas participé au même banquet qu'eux. Les conventions sociales ne permettaient pas aux hommes et aux femmes de fêter ensemble. C'est différent de ce que nous faisons aujourd'hui. Les femmes étaient tenues à l'écart alors que le banquet était une occasion de traiter des affaires. On ne mélangeait pas le sexe et les affaires. Xerxès faisait la promotion d'une guerre, alors Vasti a reçu les femmes à un autre banquet. Verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Un chef d'État alcoolique devrait-il gouverner? Le roi se saoula et il dépassa les bornes. Personne n'était obligé de boire, mais le roi ne s'en priva pas. Ceci soulève une question au sujet de ce roi ou de tout autre chef d'État. Devrait-on gouverner si nous ne contrôlons pas notre boisson et que l'on s'enivre? Alors, qu'il est intoxiqué, Xerxès fait une chose qu'il n'aurait pas fait, s'il était demeuré sobre. Écoutez ce qu'a à dire le Nouveau Testament au sujet de la boisson. Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Voilà une conduite qui honore Dieu. Ce chef d'État, Xerxès, enivré, demande à ses eunuques d'aller chercher Vasti pour montrer sa beauté à tous. Verset 11. D'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Le roi avait fait l'étalage des richesses de sa cour, et il a démontré qu'il était en mesure de se payer une guerre. Maintenant, sous l'effet de la boisson, il viole un tabou de l'époque. Il va exposer Vasti, qui est une belle femme, au regard de tous. Il n'aurait jamais fait cela s'il avait été sobre. Il voulait que tous voient Vasti, son trésor, le bijou de sa couronne, pour ainsi dire. Verset 12. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, et il fut enflammé de colère. Le roi avait annoncé la venue de Vasti, et un eunuque lui annonce qu'elle refuse de venir. Ne me dites pas que les femmes n'avaient pas de droit à l'époque. Vasti refusa d'obéir au roi, ce qui l'embarrassa devant ses invités. Tous devaient murmurer, « Quelle sorte de roi avons-nous? Il n'est pas maître dans sa maison. » La reine Vasti a-t-elle eu raison de dire non à son mari? Bien que Vasti était justifiée de refuser d'obtempérer à l'ordre de son mari, elle aurait dû réfléchir aux conséquences de son refus. Elle aurait dû tenir compte du fait que son refus serait un scandale qui nuirait à la position de son mari. Dans ces circonstances, elle aurait dû obéir au roi. Versets 13 à 15. Alors le roi s'adressa au sage qui avait la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchena, Shethar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Mémucan, sept princes de Perse et de Midie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans leur royaume. « Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Suérus lui a ordonné par les eunuques ?» Xerxès convoque son cabinet de toute urgence. Les hommes nommés dans ce verset rencontraient le roi en privé, comme les membres du cabinet rencontrent régulièrement le premier ministre. L'incident ne nous semblerait pas si important aujourd'hui, mais à cette époque, il était grave. Le cabinet doit résoudre cette crise, mais il n'existe pas de loi appliquée à l'égard de Vasti. Verset 16. Mémucan répondit devant le roi et les princes, « Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi. C'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assuérus. » Puisqu'aucune loi ne s'applique à Vasti, le roi devra en faire une très sévère. Ce Mémucan, qui devient le porte-parole du groupe, avait peut-être des difficultés avec sa propre épouse. Il craint que les choses empirent si Vasti s'en tire. Mémucan ne devait pas prendre les décisions chez lui. Il devait craindre de rentrer à la maison. C'est sa femme qui devait porter les culottes au foyer. Il y a des hommes qui prennent les ordres d'un patron à l'ouvrage et ils n'ont pas l'occasion d'exprimer leur opinion. Ils arrivent à la maison et leur épouse ne les laisse pas s'exprimer davantage. Ces hommes parlent beaucoup, lorsqu'ils se retrouvent sur un comité d'église, mais ils n'ont vraiment rien à dire qui contribue à l'avancement de l'église ou à la santé spirituelle des membres. Leurs suggestions n'ont aucun mérite. Memucan est ce type de personne. Versets 17 et 18. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes, et les portera mépriser leurs maris. Elles diront, « Le roi Suérus avait ordonné qu'on amène en sa présence la reine Vasti, et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Midie, qui auront appris l'action de la reine, la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. » La femme de Memucan devait le mener par le bout du nez, pour qu'il ait une telle crainte des conséquences du geste de Vasti. Notez la suggestion de cet homme. Verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Suérus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. La décision de Xerxès n'est pas une loi pour les chrétiens. Nous sommes dans une cour païenne, chers amis, et cette suggestion n'a rien à voir avec la loi mosaïque ni le christianisme. C'est une nouvelle loi, mais une loi des Mèdes et des Perses. Versets 20 à 22. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elles portaient que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. La reine est écartée de la cour parce qu'elle a désobéi au roi. Un décret ordonne que l'homme soit maître de sa maison et qu'on y parle sa langue. Une loi des Mèdes et des Perses ne pouvait être ni modifiée ni abolie. Cette loi confirme ce que les historiens suspectent au sujet du caractère de Xerxès. Il avait rassemblé la plus grande armée qui n'avait jamais existé, et il l'a conduit jusqu'au défilé de Thermopyle où 300 soldats spartiates l'affrontèrent. De plus, sa flotte de 300 navires fut détruite par Thémistocle, non loin des côtes de l'île de Salamine. Dans un excès de folie, Xerxès alla au bord de la mer et il frappa les vagues avec une lanière parce qu'elles avaient détruit sa flotte. Cet homme avait quelque chose d'anormal, comme c'est le cas de nombreux grands chefs d'État, Jules César, Napoléon et Hitler. Nabuchodonosor, quoiqu'il fût représenté par la tête d'or dans la vision du prophète Daniel, passait par des cycles de folie. Malgré qu'il fût anormal, Xerxès était un homme très habile, même s'il a écarté sa reine dans un moment de colère. Plus tard, une fois apaisé, il voulut reprendre sa reine, mais la loi des Mèdes et des Perses était inviolable, coulée comme dans du ciment. Chapitre 2 du livre d'Esther, verset 1er. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Chers amis, ne décidons rien sous la colère. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Le texte dans le livre d'Esther précise après ces choses. Cela pourrait être après la guerre désastreuse contre les Grecs. Il a dû revenir déprimé de sa campagne militaire. L'absence de Vasti dut se faire d'autant plus sentir. Il ne pouvait plus revenir sur sa décision concernant son épouse Vasti. Le plan de Dieu commence à s'accomplir, la suprématie de la Grèce. Nous devons consulter l'histoire séculière pour avoir les détails de la campagne de Xerxès contre les Grecs, puisque nous n'en avons aucun record dans les Saintes Écritures, dans la Bible. La force de l'armée perse était le nombre de ses soldats. Cependant, les soldats perses n'étaient pas aussi bien entraînés que les soldats grecs. Un seul soldat grec pouvait facilement affronter 10 soldats perses. Donc, à la bataille du défilé des Thermopyles, seuls quelques hommes ont pu pénétrer dans le défilé étroit. Les Grecs ont finalement remporté la victoire sur l'armée perse. Ce fut une triste défaite pour Xerxès, mais la main de Dieu était derrière ces événements. En effet, la Grèce est sur le point de devenir la puissance mondiale à la place des Mèdes et des Perses. Oui, chers amis, l'homme écrit son histoire, mais rappelons-nous que Dieu aussi écrit son histoire. Xerxès devait faire les 100 pas dans son palais et il devait se sentir seul. Il pense à Vasti. Ses serviteurs sont conscients de son état d'esprit et ils le surveillent. Versets 2 et 3. Alors, ceux qui servaient le roi dirent « Qu'on cherche pour le roi des jeunes filles, vierges et belles de figure. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Aiguée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette. Le cabinet du roi remarque que le roi est maussade et que le poids de la solitude pèse sur lui. Les princes suggèrent l'organisation d'un concours Miss Perse et que l'on cherche des belles femmes dans tout le royaume. De belles filles furent rassemblées de toutes les provinces. Il dut y en avoir plusieurs centaines. Dans Daniel, dans le livre du prophète Daniel, chapitre 8, un ange explique au prophète une vision que Daniel a eue. « Le bélier que tu as vu, et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. » Citation de Daniel, chapitre 8, versets 20 et 21. « Javan, c'est la Grèce. » Déjà au temps des événements du livre d'Esther, nous voyons que le plan qu'a tracé Dieu pour l'histoire de l'humanité s'accomplira. Dieu n'a pas accordé la victoire au puissant roi de Perse, et sur les Grecs, malgré qu'il ait utilisé les Mèdes et les Perses pour libérer son peuple. Dieu prévoyait que la Grèce serait la prochaine puissance mondiale, et Alexandre le Grand défie l'Empire perse environ 150 ans plus tard. Chers amis, qui est au contrôle de ce monde? Dieu. Dieu est au contrôle. Qui est au contrôle de ta vie? Cela devrait être Dieu. Lui as-tu remis le contrôle de ta propre vie? Est-ce que Dieu peut te dire maintenant ce qu'il attend de toi? C'est aussi bien de le faire maintenant, de t'y soumettre maintenant, car un jour, nous dit les Saintes Écritures, que toute langue confesseront que Jésus est Seigneur, et que tous genoux fléchiront devant lui. Pourquoi ne pas le reconnaître maintenant et lui dire que tu le reconnais comme étant le roi, le Seigneur de ta vie. Et par le femelle, tu pourras bénéficier de ses bons soins. C'est lui-même qui invite l'humanité entière à venir vers lui. Vers le bon berger, celui qui pourra te conduire dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, il restaurera ton âme, et tu pourras bénéficier de lui au moment présent, et cela jusque dans l'éternité. Dieu veut devenir ton Dieu. Ton Seigneur, ton Roi, à toi de faire ce choix. Fais-le maintenant. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission. Esther chapitre 2, versets 4 à 15.
Merci, Régent. On a vu bien clairement qu'il y avait des femmes qui menaient leur mari par le bout du nez dans le temps d'Esther. Et pourtant, beaucoup de temps s'est écoulé depuis cette époque. Je pense que j'ai raison de dire, comme Salomon, dans le premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste, au verset 9, que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, C'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mes amis, la nature humaine ne change pas. On est aussi pécheurs aujourd'hui que les gens l'étaient du temps d'Esther. Êtes-vous d'accord avec moi? J'aimerais parler à mes sœurs en Jésus-Christ. Il est vrai que je suis célibataire. Ça me donne peut-être un peu moins de crédibilité auprès de vous quand je vous parle de la soumission de la femme. Et si j'étais à votre place, j'aurais peut-être autant de difficultés que vous à mettre en pratique ce que la Bible nous enseigne à ce sujet. Mais c'est tellement beau de voir une femme qui aime son rôle d'épouse, tout en réalisant qu'elle est loin d'être inférieure à son mari, mais qu'elle a quand même un rôle différent du sien. Il me semble que si j'étais mariée, je trouverais ça bien moins stressant et fatigant d'accepter le rôle de l'homme comme étant le leader de sa petite famille. Il m'est arrivé de donner des conseils à mes sœurs dans la foi, et celles qui m'ont prise au sérieux ont aimé les résultats que ça donnait. Par exemple, si leur mari est sur le point de prendre une mauvaise décision concernant la famille ou son emploi, elles émettent leur opinion, disent ce qu'elles pensent qu'il devrait faire, mais elles acceptent qu'il prenne la décision finale. Et si sa décision n'est pas bonne, il apprend par son erreur, pas vrai? Mais si elle le harcèle jusqu'à ce qu'il plie devant leur opinion, il perd l'occasion d'apprendre par son erreur, et il met beaucoup plus de temps à devenir le leader qu'il doit devenir. Oh, mes sœurs, je vous encourage à laisser Dieu se charger de faire un bon leader avec votre mari. Et en faisant ainsi, vous pourrez vivre le psaume 131. Permettez-moi de vous le lire. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Et écoutez bien ceci. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Mes sœurs, mettez votre espoir en l'Éternel. Mettez votre espoir en notre Dieu Tout-Puissant et aimez votre mari. Dans le livre de la Genèse, au 2e chapitre, verset 18, il est écrit que l'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Votre rôle comme aide de votre mari sera récompensé dans le ciel autant que son rôle en tant que chef de famille. Dans le 6e chapitre de son Épître aux Hébreux, Paul nous dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Vous avez de belles récompenses qui vous attendent dans votre domicile céleste, où on va passer l'éternité avec l'époux par excellence. Et cet époux, c'est le Seigneur Jésus lui-même.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Réjean, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Réjean, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.